a d'abord été traduit par Moïse Rosenbaumas lui-même, puis a été repris par sa fille Isabelle au fil d'un dialogue qui a parfois étoffé le récit initial. Né en 1922 dans une bourgade de Lituanie, Moïse Rosenbaumas raconte la vie de cette société pauvre et laborieuse à la veille de sa destruction. L'auteur évoque les métiers qui avaient à leur cours, les plats de misère et les jours de fête, le climat rude et les jeux d'enfants, glisser sur le lac glacé avec un seul patin et voler des pommes dans les vergers les plus difficiles d'accès. Tandis que le père de Moïse abandonne sa famille après une faillite causée par la crise mondiale, le petit garçon commence à travailler à l'âge de 10 ans, puis devient tailleur. La guerre éclate et l'adolescent s'enfuit après avoir tenté de convaincre sa mère et ses frères de le suivre. Ils seront tous assassinés avec les autres juifs lituaniens entre juillet et décembre 1941. Au cours de son périple, Moïse est interné avec d'autres Russes dans un kolkhoz d'Ouzbékistan où il subit le travail forcé et la faim. Il parvient à s'extraire de cet enfer et s'engage dans l'armée rouge où il sera éclaireur. Décoré comme soldat, il devient cadre du régime soviétique jusqu'à ce que sa conscience et surtout sa femme l'incitent à sortir de cet enlisement dans le système. En 1957, il rejoint ainsi son père en France qu'il n'avait pas vu depuis près de 30 ans. Moïse s'est éteint le 1er novembre dernier. Ihr habt sich verliebt in ein Jüngel, ein Schein, und ich kann zu ihm nicht kommen. À la maison, mon comportement avait commencé à changer. J'avais l'impression d'être le chef de la famille et me conduisais en maître des lieux, en bas les boss, y compris avec mon frère aîné, et dirais-je surtout envers lui. Avec une certaine arrogance, je lui faisais bien comprendre que c'était moi le Bräutgeber, celui qui assurait le pain quotidien. Mes petits frères étaient encore des garçons dociles et je les adorais. J'étais donc jaloux de mon frère aîné, qui était par contraste avec moi un intellectuel et affichait, malgré la modestie de nos moyens, une allure soignée et élégante. Me sentant sacrifié, je considérais qu'il aurait lui aussi pu travailler au lieu de profiter de tout. Il passait le plus souvent en coup de vent à la maison et je ne savais pas trop où il s'installait pour faire ses devoirs scolaires, mais cela ne l'empêchait pas d'être un excellent élève. Il était, au dire de tous ceux qui l'ont connu, un garçon très doué. Avec le recul du temps, je ressens toute la dérision de la situation et surtout la bêtise dont je faisais preuve. Mais c'est ainsi, quand on est jeune, on agit parfois comme si la terre entière vous appartenait, et pour tout dire, en égoïste. J'avais un immense respect pour ma mère et l'aimais plus que tout au monde. Elle avait bien besoin d'être entourée et me rendait cet amour au centuple. Elle était en réalité le seul vrai patron de la maison, car je lui remettais tout ce que je gagnais pour les dépenses domestiques. Ensuite, elle me redistribuait de l'argent de poche, dont je me satisfaisais tout à fait car mes besoins étaient des plus limités. Mon grand-père, Aaron Meyerowitz, habitait chez nous. À cette époque, on gardait les vieillards à la maison jusqu'au dernier jour de leur vie. Malgré notre situation économique, il avait une chambre pour lui tout seul. Il souffrait, comme je l'ai dit, d'un cancer du nez. Bien qu'il ait été opéré plusieurs fois, son nez recommençait à se gangréner et à sentir mauvais. Une nouvelle opération était devenue trop onéreuse parce qu'elle impliquait plusieurs interventions de chirurgie plastique après coup. L'odeur de son nez devenait difficile à supporter. Grand-père commençait à se sentir mal la nuit et ma mère me demanda de mettre mon lit dans sa chambre. Et j'ai ainsi dormi avec lui jusqu'à sa mort. Une nuit, grand-père s'endormit pour toujours. Je n'avais même pas entendu son souffle se modifier. Il avait vécu près de 100 ans et avait terriblement souffert de son cancer, endurant en silence toutes ses opérations. Il avait sûrement mérité de glisser paisiblement dans le sommeil. C'était un homme très pieux qui se rendait à la synagogue 3 fois par jour pour les prières quotidiennes, sans compter le Shabbat et les jours de fête. Malgré son mal, il manifestait à la fois un excellent appétit, se traduisant par un sacré coup de fourchette et un tempérament capricieux pour tout ce qui touchait à la nourriture. Comme on le dit en yiddish, ce n'était pas un piètre mangeur, bien au contraire. C'est ce qu'il ingurgitait qui lui semblait piètre, insignifiant. Pour être plus explicite, il avalait sans difficulté un poulet à lui tout seul ou un kilo de viande avec un kilo de pain et ne boudait pas pour autant les pommes de terre et les autres légumes qui accompagnaient le plat principal. J'entends ici un repas ordinaire des jours de semaine, dans les périodes fastes, et non un festin de fête. Quand il avait achevé de manger et prononcé la bénédiction qui clôt le repas, il entamait l'examen de sa composition à la façon d'un critique de cinéma ou de musique. Il commençait ainsi. « Tu sais, Mererhai, les deux prénoms de ma mère, il me semble que la purée manquait de sel. Le tsemes, jardinière de carottes, n'était pas assez sucré. Ou encore, il faudrait davantage de poivre dans ton gefilte fish. » Et il énumérait ainsi chacun des plats qu'il avait consommés sans en omettre aucun, en les passant au crible de sa critique gastronomique. Jamais il ne le faisait pendant le repas. C'était un homme respectueux. Non seulement il attendait toujours d'avoir terminé, mais aussi d'avoir rendu grâce à Dieu. Après sa mort, sa chambre se libéra. Je refis les peintures et ma mère la loua à deux célibataires endurcis qui débarquaient du shtetl. Elles étaient originaires d'une bourgade proche de Telz qui s'appelait Louknik. Et s'il est vrai que les deux demoiselles n'étaient ni des prix de beauté ni de la première jeunesse, pour tout dire, elles auraient dû être mariées depuis longtemps, cette présence féminine parmi 4 garçons changeait considérablement l'atmosphère de la maison. Il arrivait que nous les serrions dans nos bras sans trop de ménagement ou que nous leur tirions les cheveux. Il faut cependant admettre la vérité sans vantardise, nous ne risquions pas au-delà de ces taquineries. J'étais devenu un jeune homme et j'avais appris à danser les danses modernes. Chaque semaine, il y avait une soirée dansante dans les murs du lycée lituanien. Celui-ci se trouvait un peu à l'écart de la ville, dans un bâtiment flambant neuf. La salle au parquet éblouissant où étaient organisées les soirées dansantes était en réalité un gymnase, réservé la plupart du temps aux matchs de basketball. Le basketball était une sorte de religion nationale que tout le monde vénérait et les Lituaniens avaient déjà à cette époque l'une des meilleures équipes du monde. Les rencontres internationales organisées le soir étaient très suivies. La plus grande partie des spectateurs, tout comme pour la danse, étaient surtout des Lituaniens. Cela dit, il y venait des filles lituaniennes comme des filles juives et je ne rejetais ni les unes ni les autres pourvu que l'on dansât, car en fermant les yeux, on ne voyait guère la différence. Tous les dimanches, on pouvait aussi aller danser en dehors de la ville, dans les campagnes, en plein air, au son de l'accordéon qu'on appelle en lituanien « gegiojina ». Pas une seule jeune fille ne s'aventurait jusque-là. De façon générale, les Juifs de Lituanie étaient considérés comme un vieux meuble usé dont on ne souhaitait pas se débarrasser pour autant. Les Lituaniens n'affichaient pas d'hostilité à notre égard, mais ne nous manifestaient pas non plus un excès d'affection. On raconte que le président lituanien avait fait remarquer, en s'adressant aux antisémites, qu'on n'abattait pas pour sa viande une vache qui donnait du lait. En bref, les Juifs qui vivaient en Lituanie depuis des siècles étaient tolérés. En Allemagne, les nazis se dressaient et avec rage commençaient les persécutions antisémites dont les contre-coups se sont très vite fait sentir jusque chez nous. Beaucoup de réfugiés juifs avaient pris le chemin de l'errance à travers la Lituanie. Plusieurs familles s'étaient ainsi arrêtées à Telz. La frontière de la Prusse se trouvait à 60 km à vol d'oiseau. Les discours empoisonnés et remplis de sarcasmes meurtriers de Hitler contaminèrent rapidement une grande partie de la population lituanienne. L'Allemagne envahissait pays après pays. Le pacte germano-soviétique, avec pour cadeau de Hitler à Staline les pays de la Baltique, conduisit à l'entrée des armées soviétiques qui occupèrent la Lituanie en 1940.
Dort wo großen Sehnen nasser steht der Grenze vertracht, Gøyen meg vært tingen vassel, med hjemmer alle nacht. Gøyen meg vært tingen vassel, med hjemmer alle nacht. Unter zum wie weiße Bären wachsen täg in großen Sod und von weitem Schein von Stern tanzen Jaten in a Rot und von weitem Schein von Stern tanzen Jaten in a Rot. Von die Steppes Winkler blosen und a Feierulder brennt, gehen Mädler auf die Großen mit die Äler in die Hand. Gehen Mädler auf die Großen mit die Ämmer in die Hand. Wertle wohne blass und blasser, geht's beugt men in der Nacht. Dort wo großen Sehnen rasser, steht der kleine Zeffertacht. Dort wo großen Sehnen rasser, steht der kleine Zeffertacht. Dort wo großen Sehnen rasser,
Und ich, du, hab ich sehr gefühlt wie der Balabos. Viel auf meinen älteren Bruder pflege ich oben viel Chuzpe und gegeben zu verstehen, als ich bin der Breitgeber. Ich rede nicht von meinen kleineren Brüdern. Jetzt sehe ich, als das ist gewesen sehr nicht sehen und überhaupt Nahres von meiner Seite. Aber als man ist jung, meint man, als die ganze Welt gehört zu dir. Meine Mutter habe ich sehr respektiert und lieb gehabt. Und sie pflegt mir das zurück abgeben. Alle Geld, was ich habe verdient, pflege ich bringen in den Stub und abgeben meine Mutter. Und sie hat mir gegeben Tassengeld. Der Seide, welcher hat gelebt bei uns, weil einmal hat man nicht erwähnt gegeben in ein älter Haus wie Heint. Jetzt gucken die auf unsere ökonomische Lage. Hat er gehabt, aber sonder ein Zimmer. Er hat gehabt Probleme mit seinem kranken Nuss, in welchem er hat gehabt ein Rack. Man hat ihm schon vielmal operiert, dem Nuss, aber es wird weiter verfüllt. Und jetzt hat man schon wieder gedacht operieren und überstellen an einem Nuss. Aber leider, wir haben nicht gehabt die materiellen Möglichkeiten, das zu machen. Das ist gewesen eine kostbare Operation, weil jedes Mal hat man gemusst euch machen, eine plastische Verrichtung. Also rum von Nuss hat sich genommen Hirn, als schlechter Reich. Und zudem hat er sich genommen vielen schlecht, bei Nacht. Hat meine Mutter mir gebeten, als ich soll reinstellen, mein Bett beim Seiden im Zimmer. Also bin ich geschlafen mit ihm bis ein Tod. Eine von den Nächten ist er gestorben, ich habe nicht gehört. Besser gesagt, eingeschlafen. Er hat gelebt nicht weit von einem Hunderter und vielmal gewesen operiert von seiner Krankheit. Als er ist eingeschlafen und sich nicht gedarft mattern, hat er das Kosser verdient. Gewesen ein frommer Mensch, dreimal in den Tag gegangen zum Davenen und er sehr viel sich angelitten mit seinem Kanzerrack. Ich gucke nicht auf seine Krankheit, hat er gehabt einen guten Appetit und zudem noch gehabt viel Kaprisen. Überhaupt mit Nessen. Wir können nicht sagen, als er ist gewinn ein knapper Esser. Nein, gar verkehrt. Was er vielleicht essen, ist gewinn knapp. Ach, zu geben, aber zu verstehen, er hatte könnt aufessen ein ganzes Huhn oder ein Kilo Fleisch. Und mit dem aufessen ein Kilo Brot, ein Hutz aller Zutaten, Kartoffeln, Meeren, andere Sachen. Gewöhnlich reite ich da wegen einer Woche dicken Essen. Und als er hat sein, aufgegessen, und abgebenz legt er oneben mit seiner Kritik, also wie ein Kritiker von Filmen oder von Musik. Hat er angeben, also, du weißt, Merechaie, mir ist vorgekommen, als es hat gefehlt Salz in die Kasse und es hat gefehlt Zucker in die Zimmes oder es hat gefällt Pfeffer in die gefüllte Fisch. Und so weiter, bis schlägt Eiskritik in dem ganzen Mahlzeit. Aber keinmal nicht im Mitten essen, nur dann, wenn hat sein, als geendigt. Noch sein Tät hat sich der Zimmer befreit. Hab ich ihm Eis geformt und meine Mutter hat hereingenommen 2 Quartierantkes. Seinen gewinn 2 Mädchen von einer anderen Städte. Seinen sind nicht gewinn von der ersten Jugend. Sein Zeit sehr gewinn zu führen zu der Kassene. Nur 2 Mädchen zwischen alle Englisch in Stub vor sich gebieten die ganze Atmosphäre. Einmal fliegt man sie ein Quetzton oder ein Ziton für die Haare, aber weiter von dem hat man nicht riskiert. Ich bin schon gewohnt, ein größer Bocher und sich ausgelernt tanzen. Alle Woche Sonntag ist in der Litwische Gymnasie vorgekommen ein Tanzabend. Die Gymnasie hat sich gefunden hinter der Stadt, aber sehr nahe von meinem Stub, nicht mehr wie 5 Minuten zu gehen. Die Gebäude ist gewesen ein neues und schönes Gebäude. Und der Saal, wo man pflegt tanzen, ist gewesen ein Sportsaal mit einem Deal, wo es pflegen vorkommen Basketballvermessungen. Wo eine Liter ist dort gewesen ein beliebter Sport. Und die Litwiner in jener Zeit haben sich gerechnet von den Besten in der Welt. Ich pflege sehr oft kommen bei Nacht gucken die Vermessungen, welche seien sehr oft gewesen internationaler. Die meisten Zugucker seien gewesen Litwiner. Und also ich habe die Tänze. Die Litwinke, sondern die jüdische Mädchen pflegen kommen und ich habe nicht brakiert. Nicht die erste und nicht die zweite, aber man tanzt. Die Litwiner haben zu uns nicht rausgewiesen keine feindlichen Sachen und auch nicht keine große Liebe. Aber in allgemein haben wir viele gehabt, litwische Gewehren. Also kann man sagen, dass wir haben gelebt nicht ärger wie in anderen Ländern. Die Jeden in Litwa seinen Gewinn wie ein Stickel alte Möbel in Stub, was ist schön abgenutzt und man will das nicht herauswerfen. Man pflegt erzählen, als der litwische Präsident hat gesagt zu den Antisemiten, als eine melkige Kuh können Turmen nicht, Kosman, sie gibt Milch. Mit einem Wort kann man sagen, als die Jeden seinen Gewinn toleriert und schön gelebt do, als Sachjorn. In Seisland hat der Nazism gebusselt. Und die anti-jüdische Rediffes haben sich angegeben spüren bis bei uns. Viele jüdische Blätter haben angegeben zu wandern und viele einige Familien sind geblieben in Tels. Ich will da unterstreichen, dass Tels hat sich gefunden 60 Kilometer von der deutschen Grenze. Hitlers beißige Redes voll mit Antisemitismus haben genommen auch anstechen ein größer Teil von der jüdischen Bevölkerung. Deutschland hat genommen vernehmen ein Land nach dem anderen. Der Hauptmacht zwischen Stalin und Hitler, der Zuteilung von Polen zwischen sie und die Matone, was Hitler hat gegeben, Stalin, die baltischen Länder. Mit einem Wort, in 1940. Jahr sahen die Russen rein in Litau und vernommen ganz
Litau. Mir dem neuen Scherus ist nach uns gekommen. Ich hab sich verliebt in a jinga da scheine, und ich kenn zu ihm nicht